Alors, nous tournons dans le livre de Job, au chapitre 5, verset 7. Et le titre du message, « Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? » Vous n'êtes pas sans savoir que cette semaine, il y a eu une tragédie au Népal. On parle des chiffres officiels, 7 000 décès, mais c'est seulement officiel. Alors, on parle de beaucoup plus de décès que cela. Alors, c'est certain qu'on est en prière avec ces gens-là, ce pays-là. Et vraiment, c'est des choses souvent qui nous dépassent. Et je vais parler ce matin je vais parler du thème de la souffrance en partie parce qu'on pourrait parler de beaucoup de choses. Et dans le livre de Job, chapitre 5, verset 7, c'est écrit que l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Alors, l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. L'homme vient au monde en souffrant, dans les larmes, et sa vie est une suite de bonheur et de chagrin. Nous pouvons parler également ce matin, au 14e siècle, de la peste noire en Europe qui a fait 25 millions de victimes. Nous pouvons également parler de la grippe espagnole en 1918-1919 qui a fait de 25 à 40 millions de victimes également. Les années 30, alors que dans l'ex-Russie, l'Union soviétique, l'ex-Union soviétique, alors que Joseph Staline était président de l'Union soviétique, il y a eu 60 millions de victimes. On parle de 1945 jusqu'en 1986, une centaine de conflits qui ont tué 21 millions de personnes. On parle également en Chine, sous le règne de Mao Zedong, 60 millions de gens torturés, des gens qui sont morts de faim. On parle en 1983 de 15 millions de gens qui sont morts de faim également. On parle aussi en 1985 de l'éruption du volcan Nevado en Colombie qui a fait 23 000 morts. 17 janvier 1995, tremblement de terre au Japon, 5 000 morts. De 1994 à 2004, il y a eu des catastrophes naturelles qui ont touché 2,8 milliards de personnes. Dans l'an 2000, 30 à 40 millions de personnes contaminées par le sida, 10 millions d'enfants infectés et mourront avant leur majorité. Également, l'an 2000, 60 millions d'ordonnances pour la dépression en France, de 100 000 à 200 000 tentatives de suicide. On parle en 2002, 57 millions de morts dues à la maladie. Et j'en passe. On dit que chaque jour, 200 000 personnes meurent de faim. Il y a des millions de nouveaux orphelins en Afrique à cause du sida. Il y a la pauvreté, il y a les guerres, il y a des tremblements de terre, des inondations, sécheresses. Le monde est rempli de souffrances, de toutes sortes. Alors, pourquoi? Pourquoi la guerre? Pourquoi la violence? Pourquoi la maladie? Pourquoi la famine, la pauvreté? Pourquoi l'humanité doit-elle subir la misère à la suite de catastrophes naturelles? Pourquoi ces choses arrivent-elles? Et pourquoi Dieu n'intervient-il pas? » Est-ce que la Bible nous décrit un Dieu qui est miséricordieux, qu'un Dieu est bon, qu'un Dieu a une compassion envers l'humanité? Alors, s'il est tout-puissant, s'il est amour, il devrait mettre un terme à tout cela, la souffrance. À qui la faute? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que c'est la faute de l'homme? Est-ce que c'est la faute du hasard? Est-ce que c'est la faute, tout simplement, d'une conséquence parce que la Terre est faite comme ça et il y a le bien, il y a le mal? Alors, qu'est-ce que les gens connaissent des desseins du plan de Dieu envers l'humanité? Les gens parlent probablement d'aller au ciel lorsqu'ils vont mourir, mais après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est peut-être les seules questions que souvent les gens se posent. Mais pourquoi la souffrance? Et je pense que c'est une question existentielle et on doit aller dans la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce qui est écrit sur la souffrance. La Bible nous dit que Dieu est sensible à ce qui arrive à l'homme et à la femme sur la terre. Parce que c'est écrit qu'avant d'inonder la terre par le déluge, à un moment donné, il y a eu un déluge, il y a plusieurs milliers d'années, au temps de Noé, la Bible dit que l'Éternel Dieu, se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Alors, il y a eu quand même une peine dans son cœur. Il y a eu quand même des sentiments. Et quelqu'un qui connaît bien Dieu, un personnage de la Bible qui connaît bien Dieu, c'est bien Moïse. Qu'est-ce que Moïse a dit à la fin de sa vie, après avoir vu Dieu à maintes reprises juger, sauver son peuple, parler à son peuple? Qu'est-ce que Moïse a à dire à la fin de sa vie? Moïse a dit, « Est-ce que nous mettons les injustices sur le dos de Dieu? Si eux prêtez l'oreille et je parlerai, terre écoute les paroles de ma bouche, car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est droit et juste. » Dans Deutéronome, chapitre 32, versets 1 à 6. Il a dit également, « Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? » Alors, il est bien clair que Moïse a dit, « Non, ce n'est pas Dieu. Dieu est parfait, Dieu est juste, Dieu est fidèle, Dieu est sans iniquité. » Alors, ce n'est pas Dieu, c'est qui? Pourquoi la souffrance? Nous avons soulevé la question de la faim il y a quelques minutes. L'une des souffrances les plus terribles dans le monde. Les causes de la faim sont nombreuses et variées. Quelques-unes naturelles, mais les plus importantes ne viennent pas de Dieu. Supprimer la faim serait techniquement possible, puisque la planète produit actuellement assez de nourriture pour nourrir la population mondiale. Il est évident que l'homme est le responsable de ce désastre, comme il est responsable de l'écart grandissant des nations riches et pauvres. On dit également que si l'homme voulait, il pourrait mettre $1 milliard et on aurait des puits d'eau partout en Afrique. Il n'y aurait plus d'une certaine façon de sécheresse. Les gens pourraient boire, même s'il n'y a pas plu pendant des mois et des mois. Et ce serait possible, si l'homme le voulait. Pourquoi Dieu qui est saint permet-il l'enlisement de l'humanité dans ses erreurs? Alors, c'est la faute de l'homme, pourquoi Dieu le permet quand même? Pourquoi laisse-t-il l'homme agir de cette façon? N'a-t-il pas le pouvoir d'empêcher les actes d'injustice? Est-ce qu'il aurait pu créer l'homme parfait? Si on avait été à la place de Dieu, est-ce qu'on n'aurait pas créé quelque chose de parfait où l'harmonie régnerait, la paix régnerait. Savez-vous, c'est ce qui est arrivé au début de l'humanité dans Genèse. La Bible dit que Dieu, au départ, a créé quelque chose de parfait. Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu. Dieu a créé Adam et Ève. Adam et Ève vivaient en harmonie avec les autres créatures dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Genèse, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Alors, il y a eu un temps dans la Genèse où il y avait une paix, il y avait une harmonie, il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de tremblement de terre, toutes ces choses-là. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Étant donné que Dieu est parfait, Dieu, ce qu'il fait, c'est parfait. Mais l'homme a été créé avec une certaine liberté. Une liberté de pouvoir choisir sa destinée. S'il y a un choix, on a une certaine liberté. Parce que s'il n'y a pas de choix, la liberté n'existe pas. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Alors, il y a une liberté. L'homme avait une liberté, mais il y avait un danger dans cette liberté, c'est que l'homme pouvait agir à sa guise. Il pouvait se révolter également. Et dans le jardin d'Éden, il y a eu une première révolte. L'homme s'est révolté contre Dieu. L'homme s'est révolté contre Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que l'homme a dit à Dieu? « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » La femme a mangé du fruit, l'homme a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, et Dieu avait dit « Tu ne peux pas manger de ce fruit-là. C'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est plus profond que ça, mais tu ne peux pas en manger parce que si tu en manges, tu vas mourir. » Et c'était clair. C'était très, très clair. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont désobéi. Ils avaient une parfaite connaissance des choses spirituelles. Ils avaient une parfaite connaissance de l'environnement. Ces gens-là avaient une connaissance parfaite. Ils ont désobéi à Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, c'est arrivé que l'inimitié s'est installée avec les animaux, le sol s'est rebellé, et tout s'est rebellé en même temps. À cause de cela, la souffrance s'est installée sur la terre. La souffrance ne vient pas de comme ça, qui est arrivé comme ça. La souffrance vient du premier péché d'Adam et Ève. Alors, il y a une malédiction qui est tombée sur l'homme, sur la femme, sur le sol. Pas seulement l'homme et la femme, mais les catastrophes naturelles, les grandes sécheresses viennent d'une terre qui a été maudite. C'est quoi la source de cette désobéissance-là? Pourquoi l'homme a désobéi également? Il y a une source. C'est que la Bible nous dit qu'il y a un auteur d'injustice et de souffrance dans le monde et c'est Satan, c'est le diable. Le diable est un ange qui, par son orgueil et son ambition, s'est révolté contre Dieu. C'est un être excessivement puissant. Et il y avait le pouvoir de séduire nos premiers parents, de manipuler le monde. Il y avait le pouvoir de provoquer des catastrophes naturelles. Il y avait le pouvoir de provoquer la maladie, de provoquer la souffrance dans le monde. C'est sûr qu'aujourd'hui, on ne croit plus à Satan, on ne croit plus au diable, on dit que ce n'est pas vrai. Mais la Bible nous dit qu'il existe. Et quand on regarde le mal dans le monde, on ne peut pas nier qu'il n'y a pas de mal, on ne peut pas nier que ça va bien. Il y a quelque chose en arrière, il y a une puissance en arrière de cela. Alors, la source de la désobéissance d'Adam et Ève, alors que ces gens-là étaient parfaits, c'est le diable qui est venu séduire. Lui qui avait également désobéi à Dieu. Alors, d'une certaine façon, Dieu n'est pas responsable d'une certaine façon de la désobéissance du diable, n'est pas responsable de la désobéissance d'Adam et Ève, mais il l'a permis. Dans un plan qu'on ne peut pas comprendre, dans un plan qui est souverain, Dieu a permis la souffrance d'arriver dans le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu l'a permis. Si Dieu avait dit à Adam et Ève, si Dieu avait dit « la souffrance est arrivée, le péché est arrivé, je recommence à neuf », alors il n'y aurait pas eu une postérité d'Adam et Ève. Alors voyez-vous, Dieu savait qu'il y avait une postérité qui s'en vient. Alors toute la génération, les générations qui suivaient Adam et Ève ne seraient pas là. Alors c'est pour ça que Dieu a laissé rentrer la souffrance, mais avec un plan, un deuxième plan pour pouvoir faire avec ça. Parce que la Bible déclare que Dieu dit « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. » Et c'est écrit dans la parole de Dieu, « N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? » Alors, c'est certain que Dieu a permis cette souffrance-là. Comme il permet d'avoir le bonheur et les bonnes choses, mais Dieu a permis les maux. Pourquoi? Parce que Dieu est omniscient, est omnipotent. Dieu est parfait. Dieu connaît toutes choses. Mais je reviens à ma question du départ. Pourquoi, exemple, que les méchants restent-ils impunis et les innocents souffrent-ils? On se pose souvent la question, pourquoi? Pourquoi qu'arrivent justement des catastrophes naturelles, comme on a vu cette semaine? Il y a quelqu'un qui a déjà posé la question à Dieu, vous savez, Abraham. Alors, Abraham est avec Dieu, parle avec Dieu. Abraham arrive à les deux villes de Sodome et de Gomorre. Et Dieu dit à Abraham qu'il va détruire ces deux villes-là. Vous savez que même au point de vue archéologie, il n'y a jamais aucune ville qui a été rebâtie sur les sites de Sodome et de Gomorre. Ça a été détruit à tout jamais. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'immoralité dans Sodome et dans Gomorre. Et Abraham est là, puis il dit, Abraham, son neveu demeure là, la femme de son neveu demeure là, et les enfants de son neveu demeurent à Sodome. Alors Abraham arrive, puis il dit à Dieu, il dit, tu veux faire périr toute la ville? Et Abraham, d'un côté, il ne comprend pas tellement, il dit, « Ouais. » Alors, il pose la question à Dieu, il dit, « Ferais-tu périr le juste avec le méchant? » Puis là, il commence à marchander avec Dieu, il dit, « Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? » Alors, il commence une conversation avec Dieu, puis il dit à Dieu, « Il y a peut-être 50 justes, ils vont-tu périr avec? » avec le reste de la population. Et Dieu dit, effectivement, s'il y a 50 justes, et je ne détruirai pas la ville. Et Abraham, il dit, peut-être qu'il y en a un peu moins. Il commence à argumenter avec Dieu. Jusqu'à un moment donné, que Abraham comprend que il descend tout le temps, le nombre de personnes. Parce qu'il n'y est plus certain. Pourquoi? Parce que Dieu dit, s'il y a 50 personnes, je ne détruirai pas la ville. Mais dans son fort intérieur, Abraham sait qu'il y a beaucoup moins de personnes que ça. Abraham ne possède pas la connaissance, une connaissance assez profonde de la situation. Il sous-estime la méchanceté de la ville. Pourquoi que je vous parle de cela? C'est cet incident nous enseigne que Dieu prend en considération tous les éléments quand dans ses jugements. On ne possède pas assez de connaissances, de données quand Dieu, quand quelque chose arrive dans le monde. Parce que Dieu a une connaissance parfaite. Alors, pourquoi la souffrance? Premièrement, la souffrance, j'ai trois points. La souffrance est parfois la conséquence du jugement de Dieu. Dieu dit que ce que tu vas semer, tu vas le récolter. Dieu dit « Irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Dieu se sert de catastrophes naturelles, Dieu se sert de guerre, Dieu se sert de maladies, justement, pour juger. Dieu abandonne l'homme aux conséquences de ses actes. L'homme récolte ce qu'il sème. Regardez dans le monde, puis vous allez voir. Qu'est-ce que Jérémie, dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 19, « Ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu. » Il y a une conséquence. Dieu abandonne l'homme aux conséquences de ses actes. Et on voit souvent ça dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a livrés à. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés. L'homme récolte ce qu'il sème, mais il récolte ce que les autres ont semé. D'où l'importance d'un roi, d'où l'importance d'un premier ministre, d'où l'importance d'un président, d'un comité d'administration, d'un dictateur, d'un dirigeant. Les décisions qu'on prend, les décisions que des dirigeants vont prendre ont un impact sur la population. Comme un chef de famille, les décisions qu'il va prendre ont un impact sur sa famille. Dieu est en droit de punir et d'envoyer un cataclysme à un peuple qui est religieux, qui est rebelle, qui est irreligieux. Dieu fait ce qu'il veut, Dieu est Dieu. Il a averti Adam et Ève. Il a averti les gens au temps de Noé pendant 120 ans. La Bible dit que Noé a prêché pendant 120 ans. Il a averti le Pharaon et son peuple en Égypte. Il a même averti le peuple d'Israël dans le désert et plusieurs n'ont pas écouté et sont morts. Il a averti les nations environnantes dans tout le Nouveau Testament. La souffrance, c'est un jugement de Dieu en partie. Deuxième point, la souffrance est un avertissement également de la part de Dieu. Si on parle des paroles de Jésus-Christ, on va parler de la tour de Siloé. Il y a 19 personnes qui sont mortes. Qu'est-ce que Jésus dit? Il y a une tour dans le temps de Jésus qui a tombé. Il y a 19 personnes qui sont mortes. Qu'est-ce que Jésus dit? Croyez-vous que ces Galiléens étaient les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Dieu a envoyé un avertissement. Les catastrophes sont des avertissements à une humanité qui lui tourne le dos. C'est un rappel de Dieu pour nous mettre en face de notre fragilité et de notre besoin de lui. Il ne laissera pas en paix un monde qui court à sa perte. Ah, nous, c'est pas comme ça ici. On est chanceux de ne pas avoir des souffrances comme il y a dans les autres régions du globe. Plus un homme se sent à l'aise, plus un homme ne souffre pas, plus il devient égoïste. Moins il songe aux réalités de la vie. L'un des plus grands maux de notre civilisation occidentale est justement cette abondance qui la tue en quelque sorte. Dans Job, c'est écrit, il y a des gens qui disaient à Dieu, « Retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Que peut faire pour nous Dieu? » Et les gens ils ont dit, « Dieu, on n'a pas besoin de toi. » Savez-vous ce qui est écrit un peu plus loin? Dieu, cependant, avait rempli de bien leur maison. Dieu avait rempli de bien leur maison. Dieu les avait bénis. Dieu les avait aidés. Puis ils étaient tellement pris dans leur abondance qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas été capables de voir que c'était Dieu qui avait pourvu pour cela. Puis ils ont dit, va-t'en, on n'a pas besoin de toi. Notre société ressemble de plus en plus à celle du temps de Noé. Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu concernant le temps de la fin? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La souffrance est un avertissement de la part de Dieu. Si on souffre dans notre corps, c'est peut-être dû à notre nourriture. C'est peut-être dû à notre manque de sommeil, à plusieurs raisons. Si nous souffrons dans notre âme, nous sommes tristes, c'est peut-être dû à notre comportement. C'est notre façon peut-être d'agir qui n'est pas correcte. Cela devrait nous amener à réfléchir sur ce que nous vivons. Est-ce qu'on est correct dans nos décisions? Est-ce qu'on est correct dans nos actes? Est-ce que nous avons un bon comportement? La souffrance est un avertissement de la part de Dieu. Comme la douleur dans notre corps. Écoutez, notre corps nous avertit du danger. Par quoi? Par la douleur. C'est comme un système nerveux qui envoie des signaux pour la protection de notre corps. Ce n'est pas agréable, mais c'est nécessaire pour la santé. Si on n'avait pas de signes, ça irait mal. J'étais cette semaine en train de faire la cuisine, puis à un moment donné, j'ai touché à un chaudron, puis ça m'a fait mal un petit peu. Alors, si j'avais laissé mon doigt dessus, puis j'aurais dit non, il n'y a pas de problème, je ne ressens rien, je me serais brûlé le doigt. Personne n'irait voir le médecin s'il n'y aurait pas la souffrance. Si on a... C'est un exemple, si on se cogne le pied, qu'on voit notre pied grossir, qu'on voit notre pied qui fait mal, on sent notre pied qui fait mal, alors on sait qu'il y a quelque chose qui est arrivé. On sait comment? Par la souffrance. Alors Dieu fonctionne de la même façon. Quand il veut avertir quelqu'un, il veut avertir des gens, il veut avertir une nation au complet, il veut avertir l'humanité. Il ne peut pas avertir l'humanité par une petite pluie de 15 minutes. Il veut avertir l'humanité, il veut que l'humanité se repente, il veut que l'humanité change sa façon de faire, il va envoyer des choses vraiment en conséquence. Alors, deuxième chose, la souffrance est un avertissement de Dieu. Troisième chose, la souffrance est également un outil dans le plan de Dieu pour les chrétiens, pour les gens, afin qu'on puisse développer notre caractère. Salomon a dit, « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Alors Salomon, qui était très sage, a dit, « Au jour du bonheur, ça veut dire qu'il va y avoir des jours que ça va aller très bien, sois heureux. » Pas compliqué, tu es heureux. Et au jour du malheur, ça veut dire qu'il va y avoir des jours que ça va moins, plus mal. Il dit, réfléchis. Puis après ça, il dit, Dieu a fait l'un comme l'autre. Ça veut dire, Dieu a fait les deux choses. Mais il dit, réfléchis. Quand ça va mal, réfléchis. Ce n'est pas agréable, mais réfléchis. Pourquoi? Parce que les souffrances vont déclencher un mécanisme mental. Puis ça va te permettre de voir qu'est-ce qui se passe. Et ça va t'édifier. Ça va développer ton caractère. C'est un processus. C'est une expérience, la souffrance. C'est un outil dans le plan de Dieu pour former notre caractère. La Bible nous dit que c'est pratiquement une nécessité. Il est écrit que c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. La Bible dit qu'on va avoir des épreuves. Ça fait partie de la vie. Et c'est écrit en plus, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. La Bible dit qu'il va y avoir de la souffrance. La Bible dit qu'encore, elle va un petit peu plus loin. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors, c'est tellement nécessaire qu'à un moment donné, c'est de le considérer comme une joie parce que c'est vraiment bon pour vous. La souffrance est nécessaire pour purifier la foi. Il y a des leçons dans la vie que nous n'apprendrons jamais sans passer par les difficultés. La souffrance va purifier la foi. La souffrance va produire une sainteté dans notre vie. Ça va déraciner progressivement les mauvaises choses de notre vie pour mettre des plus belles choses, pour faire remplacer par des plus belles choses. Ça va engendrer la patience et la persévérance comme un muscle qui travaille. Vous savez, les athlètes, ils ont besoin de souffrir pour arriver à ce qu'ils sont. S'ils veulent vraiment remporter des médailles, des championnats, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils souffrent. La souffrance va nous protéger contre l'orgueil. L'homme est tellement orgueilleux. Qu'est-ce que Paul dit? L'apôtre Paul, il avait une grande autorité dans l'Église primitive à cause de sa position. L'apôtre Paul a eu des révélations de Dieu. L'apôtre Paul a fait des miracles. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un d'extraordinaire. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a souffert beaucoup. Puis qu'est-ce qu'il dit, l'apôtre Paul? Il dit, « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, à cause de ce que le Seigneur m'a donné, je pourrais me promener puis me bomber le torse et puis me pavaner devant tout le monde, comme la plupart des gens font quand ils se sentent importants. Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a été mis une écharde dans la chair. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose. On dit que l'apôtre Paul avait une maladie des yeux. On ne sait pas c'est quoi. Et il a demandé au Seigneur de lui enlever. Je crois que c'est trois fois. Il lui a demandé deux ou trois fois. J'ai pas la... Et le Seigneur lui dit non. Il dit, ma grâce te suffit. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. La souffrance produit la compassion également. Quelqu'un qui a souffert ou qui est quelqu'un qui a vu beaucoup de souffrance est très compatissant. Ça va changer sa façon de voir le monde. Et qu'est-ce que la souffrance produit également? La souffrance nous rapproche de Dieu. Job, c'est quelqu'un qui a très souffert. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à la fin de son livre, 42 chapitres, qu'est-ce qu'il a dit? « Mes yeux ont vu Dieu. » Le roi David a appris de nombreuses leçons pendant sa vie. Et le roi David, lui aussi, a souffert, a passé à travers de grandes douleurs. Et je vous dirais que l'adversité et la douleur faisaient partie intégrante de sa vie. Qu'est-ce que le roi David a dit? « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, je te vois. » Les souffrances étaient pour son bien. Je reviens à Job. Job a perdu ses biens, a tout perdu. Job a perdu ses enfants. Job a été très malade. L'attitude de sa femme était vraiment pas bonne, alors il faut croire que ça n'allait pas avec sa femme dans ce temps-là. Ses amis l'ont accusé. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup souffert. Et Dieu n'a jamais répondu directement à la cause. Pourquoi il avait infligé Job de toutes ses souffrances? Même Jésus-Christ a appris de ses souffrances. Jésus qui était sans faute, qui était sans péché, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus-Christ a souffert. La Bible nous dit qu'on n'est pas, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Il faut s'attendre à souffrir. Jésus-Christ a souffert, nous devons souffrir. Il est écrit que Jésus-Christ a appris de son expérience dans la chair des leçons. Jésus-Christ a souffert dans le jardin de Gethsémani. Il a souffert pendant son procès, il a souffert sur la croix. Sans la souffrance de Christ, nous ne serions pas sauvés. Les souffrances de Jésus l'ont amené à la perfection, à une certaine maturité. Il est l'auteur d'un salut éternel. Qu'est-ce que Pierre dit dans son épître? Il dit, « C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Alors, il faut bien comprendre que la souffrance fait partie intégrante de la vie. C'est certain que si l'homme marchait avec Dieu, si l'humanité marcherait avec Dieu, il y aurait moins de mal sur la terre, c'est certain. Mais ce n'est pas le cas. Dieu a créé la souffrance dans le but d'un rapprochement entre lui et sa créature. Et la souffrance va amener deux conséquences. La condamnation du coupable Parce qu'il est dit, ce que vous semez, vous le récolterez. C'est seulement par la souffrance que quelqu'un va pouvoir voir s'il est dans la bonne direction ou non. C'est seulement par la souffrance. Si tout va bien, comment voir si Dieu est avec moi? Comment voir? C'est seulement par la souffrance, parce que Dieu va avertir qu'il y a un danger. Et pour nous arrêter, il faut que ça fasse mal. La souffrance a deux conséquences. La condamnation, Dieu veut dire que ce que tu fais, ce n'est pas correct. Et la deuxième conséquence, le pardon de Dieu à la croix. L'homme, dans ses mauvaises actions, doit se repentir. Par contre, Dieu nous a promis une chose. Dieu a dit qu'on ne serait jamais éprouvé au-delà de nos forces. Dans le livre de Corinthiens, c'est écrit que sinon, on ne pourrait pas passer à travers. Alors, Dieu ne nous amène pas à un endroit où on ne pourrait pas aller. Et l'apôtre Paul va dire, va rajouter, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. » Qu'est-ce que Paul dit? Il dit que ce qu'on peut endurer n'est pas comparable avec ce qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on peut, endurer comparé à la vie éternelle? Au paradis, au bonheur, pour l'éternité, ce n'est pas comparable. En voulant dire, ça vaut la peine, il faut souffrir, mais ça vaut la peine. Parce que la Bible dit qu'un jour, il n'y aura plus de souffrance sur la terre. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur. Les premières choses ont disparu. Apocalypse 21. Le dernier livre de la Bible nous dit que un jour, ça va être terminé. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Alors, prenons courage. Et même si on ne peut pas tout comprendre, même si on ne peut pas comprendre tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé au Népal cette semaine, qu'on voit ces gens qui sont décédés et ça nous dépasse complètement, oui, on sait que Dieu, comme je vous ai dit, Dieu va juger, Dieu va avertir et Dieu va développer notre caractère. C'est les trois raisons. Mais à travers cela, on ne peut pas comprendre souvent ce que Dieu fait, les moments qu'il fait. Et puis je ne veux pas dire que nécessairement que les gens qui étaient au Népal, c'était des gens qui étaient, c'est un jugement de Dieu, je ne sais pas. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des, on n'a pas cette parfaite connaissance pour comprendre les plans de Dieu. Mais une chose est certaine, c'est ce que l'on vit, la souffrance qu'on peut avoir régulièrement ou de temps en temps, où il y a un temps de bonheur, il y a un temps de malheur. À travers cela, Dieu nous enseigne, Dieu nous forme à travers cela. Il nous forme avec d'autres choses, il nous forme avec des événements, il nous forme avec, mais sans vraiment persévérer, sans vraiment que ça fasse mal un petit peu, on ne pourrait pas progresser. Que ce soit dans n'importe quoi, toute progression, toute amélioration, tout le savoir, il faut faire des efforts. Et des fois, ça fait mal. Alors, d'une certaine façon, la souffrance, c'est pour cela. Et de tout le temps s'en remettre à Dieu là-dedans. Dieu sait ce qu'il nous faut. Dieu sait ce qu'on a besoin. Et Dieu est en contrôle de tout. Amen.